Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre magazine Micro Rebelle Hebdo, le magazine de notre web radio Micro Rebelle. Je vous rappelle que vous pouvez écouter ce magazine chaque semaine, chaque vendredi de 18h à 19h, sur micro-rebelle.fr, le site internet de notre web radio, et en rediffusion chez nos amis de Radio PFM 99.9 à Arras et en DAB+. Micro-Rebelle Hebdo, c'est le magazine des actualités sociales, politiques, culturelles, environnementales, dans le bassin minier et au-delà. Donc aujourd'hui nous sommes deux et j'accueille donc Aurélie. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Et donc au programme de ce Micro-Rebelle Hebdo, comme chaque semaine, un agenda social, culturel, des actualités, des reportages et de la musique libre. Je vous rappelle que vous pouvez également nous solliciter pour des idées de reportages, des idées de magazines. N'hésitez pas, contactez-nous au travers de notre site internet, par téléphone ou par courriel. Sans attendre, notre agenda social et culturel que nous vous présentons à deux voix, Aurélie et moi.
On se retrouve pour l'agenda de cette semaine, donc au programme, le mardi 13 octobre, une rencontre sur le thème « Qui doit payer la dette publique ?» avec l'économiste Laurent Cordonnier, auteur de l'article du même nom paru dans Le Monde diplomatique en mai 2020. Cette rencontre aura lieu à l'École supérieure de journalisme de Lille, au 50 rue Gauthier de Châtillon, à Lille, près du métro République, à 18h30. On vous y attend.
Alors on saute directement au vendredi 16 octobre et c'est du théâtre L'Art de Perdre. Ça se passe à la salle Louis Aragon, espace Jean Ferrat à Avion à 20h30. Le téléphone 03 21 79 44 98, je répète 03 21 79 44 98. Les tarifs sont de 4 et 6 euros. Alors L'Art de Perdre, c'est d'abord un roman qui a eu un certain succès, le roman d'Alice Zénitaire. Je vous lis un peu le synopsis en quelque sorte de cette pièce de théâtre. Partir des collines de Kabylie dans les années 50. Traverser les violences et les espoirs de la naissance de l'indépendance de l'Algérie. Suivre une famille forcée à l'exil. L'arrivée dans un autre pays, des camps de réfugiés aux cités HLM des banlieues. Et mêler nos deux histoires, celle de l'Algérie et celle de la France des années 70. Se retrouver aujourd'hui dans une société française traversée par les questions identitaires où tout semble nous renvoyer à nos origines, c'est près d'un siècle d'une histoire intime et contradictoire entre nos deux pays que nous traversons. Donc, L'Art de Perdre, théâtre, salle Louis Aragon, espace Jean Ferrat à Avion à 20h30.
Cette semaine, vous aurez l'occasion de regarder le film « Un pays qui se tient sage », un film de David Dufresne, au cinéma Les Étoiles de Bruay-la-Bussière, mais aussi au Mégarama à Arras. Ce film documentaire est à propos des violences policières vécues fin 2018. « Voilà une classe qui se tient sage », la phrase est prononcée par un policier fin 2018 devant des lycéens, mains sur la tête et genoux dans la boue d'un terrain vague. Journaliste indépendant à l'esprit punk, ex-rédacteur en chef d'une chaîne d'infos continue, lanceur d'alerte, David Dufresne la détourne et en fait le titre de son film. L'objectif, démontrer que c'est le pays entier que l'État tente, par la force, de mettre en position de suggestion, de soumission. Au premier chef, ceux qui bravent ses décisions ou ses instructions. Les images abondent pour documenter la répression qui s'exerce sur les manifestants, qu'ils soient adolescents de Mantes, La Jolie, ou gilets jaunes de toute la France. La plupart sont connus, ont circulé sinon dans les médias dominants, du moins sur les réseaux sociaux. Elles ont la puissance du témoignage et de l'incontestable arbitraire, brutalité, disproportionnalité. Ces « arrête, arrête, arrête » lancés à celui qui frappe et n'arrête pas nous mettent mal à l'aise et les larmes aux yeux.
Eh bien, on continue avec une autre annonce cinématographique, un autre film, toujours au Mégarama Arras et au cinéma Les Étoiles de Bruy-la-Bissière dans la semaine qui vient. C'est le film Joseph. Alors Joseph, je vous donne un extrait de la critique de Politis. Dans Joseph, Aurel, c'est à la fois le réalisateur de ce film d'animation et le dessinateur de Politis. Donc dans Joseph, Aurel fait revivre la figure de Joseph Bartoli, républicain espagnol et dessinateur, qui, comme nombre de ses compatriotes, a été parqué dans des camps en France en 1939. Un premier long métrage dessiné qui est un coup de maître. En 1939, près de 500 000 républicains espagnols ont fui la répression féroce exercée par Franco et se sont réfugiés en France, le pays des droits de l'homme, les parquant dans des camps de concentration où ils ont subi moult mauvais traitements, faim, maladies non soignées, viols. Et parmi eux, Joseph Bartoli, militant politique et dessinateur, qui a laissé de la vie quotidienne dans ces camps abjects un témoignage puissant mais méconnu de ce côté-ci des Pyrénées. Donc Joseph, à voir cette semaine à Arras et à Bruy-la-Bissière. Eh bien, on va continuer à deux voix toujours, hein, notre rubrique actualité, au travers de la presse. Alors cette semaine, pour ce qui me concerne, j'ai choisi de mettre l'accent sur une seule actualité, le retour des néonicotinoïdes. La Voix du Nord, mercredi cette semaine, indique notamment, je cite, « empoisonnement volontaire pour les uns, garantie de la souveraineté pour les autres, le projet de loi qui réintroduit les néonicotinoïdes, pesticides dits tueurs d'abeilles, a été adopté hier à l'Assemblée par 313 voix contre 158. La filière betterave, à qui s'adresse cette dérogation, se voit offrir une seconde chance, peut-être la dernière. » Fin de citation. Alors que peut-on en penser ? Alors, rappelons tout d'abord ce que sont ces néonicotinoïdes. Ce sont des insecticides très dangereux et persistants qui contaminent l'ensemble de l'environnement pendant plusieurs années après leur utilisation, impactant gravement les milieux et les pollinisateurs. Ces insecticides, enrobant la graine, sont dits systémiques, car ils diffusent dans la plante tout entière, tout au long de sa vie. Ils la protègent contre les insectes, qui pourraient lui nuire, mais au prix de l'empoisonnement de tous les insectes pollinisateurs et de bien d'autres, car ils restent dans le sol longtemps après la récolte, contaminant toutes les plantes présentes sur la parcelle. Ensuite, faisons le point de ce que la Voix du Nord appelle la filière betterave, qui se voit offrir une seconde chance, avec ce projet de loi qui réintroduit les néonicotinoïdes. Au centre de cette filière betterave, il y a les agriculteurs qui cultivent la betterave. Bien sûr, il y a sans doute des petits paysans qui font partie de ces agriculteurs, mais on y trouve également des grandes exploitations. En tout cas, tous ces betteraviers, en amont, dépendent des semenciers. Ces semenciers mettent au point des semences qui assurent un fort rendement à l'hectare, une bonne teneur en sucre, une bonne résistance au transport et une réelle facilité de transformation. Les betteraves sont sélectionnées pour un seul travail, finir dans une sucrerie. Et elles sont incapables de résister à la moindre maladie. De là, il faut que les betteraves aient leur dose d'insecticides. Et ce sont quelques grosses multinationales qui commercialisent à la fois les semences et les insecticides indispensables. Donc, en amont, les betteraviers dépendent des semenciers qui fournissent également les insecticides. Et en aval, les betteraviers dépendent des industriels du sucre. Ces industriels du sucre sont eux aussi regroupés dans quelques grandes multinationales. Tereos, anciennement Béguincé, est le premier européen et le deuxième mondial. Tereos invoque régulièrement la concurrence internationale pour demander des subventions ou des baisses d'impôts dans le but, cocorico, de défendre la betterave française, entre guillemets. Mais cette soi-disant concurrence internationale est pure hypocrisie quand on sait que Tereos est le troisième sucrier du Brésil, le plus grand pays exportateur. Les multinationales sucrières, dont Tereos, ont fermé la moitié des sucreries européennes depuis 20 ans, sans diminuer la production, au prix de la suppression de dizaines de milliers d'emplois permanents et saisonniers. Ils ont bénéficié d'aides, de subventions et de marchés réservés pour la production d'éthanol, transformant à ce jour un quart de la production de sucre alimentaire en carburant pour les automobiles. Devant une possible baisse de rentabilité de leur sucrerie, ils exigent et obtiennent du gouvernement qu'on recommence à empoisonner les champs, faute de quoi ils menacent de mettre à la rue 26 000 betteraviers et 46 000 ouvriers. Ainsi, le pouvoir, l'État, fait la part belle à l'agro-industrie et au lobby sucrier en détruisant toujours un peu plus notre écosystème et en asservissant toujours un peu plus les betteraviers rendus dépendants. Si on élargit un peu notre réflexion, c'est toute la question de cette fameuse transition écologique qui est posée. Une question qu'on pourrait reformuler comme suit. La transition écologique peut-elle être apolitique? Ou tout au moins, doit-elle s'inscrire dans une mutation du capitalisme? Une mutation du capitalisme qui conjugue à la fois impératif écologique et performance économique. Une mutation du capitalisme qui continue en tout cas de s'appuyer sur le dogme de la croissance. Croire en la croissance, croasser sur la croissance, assurer des rendements industriels, c'est bien une mutation du capitalisme qui ne change rien au fond. Les multinationales, la classe capitaliste, d'un côté, ne peuvent que continuer à asservir les hommes et les femmes, les travailleuses et travailleurs, et de l'autre, ne peuvent que considérer l'environnement, la nature, le climat, comme des ressources dans lesquelles puiser indéfiniment. Ainsi, penser en termes de mutation du capitalisme ne résoudra rien, ni concernant la crise sociale, ni concernant la crise écologique. L'écologie, comme les questions sociales, ne peuvent qu'être anticapitalistes. Notre agriculture, notre alimentation doivent être anticapitalistes. Et c'est notre tâche aujourd'hui, définir ce que signifie sortir du capitalisme et nous mobiliser en ce sens. Cela passe bien sûr par le combat contre les intérêts capitalistes, contre la classe capitaliste, et notamment par l'affirmation que l'économie, la production et très concrètement la propriété des moyens de production, les entreprises, les lieux de travail, ne doivent plus revenir aux actionnaires, mais aux travailleurs et travailleuses, ainsi qu'aux usagers. C'est en ces termes qu'il nous faut aujourd'hui reposer à nouveaux frais les questions de biodiversité, de réchauffement climatique, de transition écologique, etc. Et je donne la parole à Aurélie pour sa revue de presse à elle.
Merci Lucien. Indésirable. Indésirable. Nous connaissons tous ce mot. Dans le dictionnaire, cela signifie quelque chose dont on ne veut pas. Pourtant, l'histoire de ce mot est profondément liée à l'un des usages que l'on en fait aujourd'hui. Et je vais vous expliquer lequel. Un article dans Politis cette semaine fait écho à cela. Les indésirables de Paris, 12e. Qui sont ces indésirables ? Des jeunes gens, des mineurs assisés d'un quartier de la capitale. Ils assignent en justice l'État pour harcèlement discriminatoire. Vous et moi, nous savons pertinemment la réalité dans laquelle nous vivons. Dans cette réalité, dénoncée déjà dans plusieurs films, une réalité où les jeunes issus de quartiers jugés défavorisés, quartiers que l'on appelle d'ailleurs souvent communément un peu la zone, n'ont pas la chance de ceux qui vivent ailleurs. Tous les jours, stigmatisés, humiliés, contrôlés par la police, des contrôles réguliers qui tournent mal selon les témoins de l'article. Pourquoi eux, à part leurs origines, leur faciès, leur couleur de peau? Eh bien, rien. Selon ces jeunes gens, rien ne justifie leur arrestation ni la façon dont ils ont été traités, et dont ils sont toujours traités. Cette situation me rappelle étrangement un film sorti il y a à peine un an. Souvenez-vous, Les Misérables. Film où la police met la pression sur les quartiers sensibles, où la violence est omniprésente et quotidienne. Dans quelle France vivons-nous ? Dans celle où les coups et blessures, les gifles, dans celle des coups et blessures, des gifles et des gaz lacrymo. Personne ne devrait avoir peur de se faire contrôler, et personne ne devrait se dire « Encore moi, et mieux encore, pourquoi moi ?» Le mot indésirable en dit long sur les méthodes utilisées par la police nationale. Ce mot était à l'origine utilisé pour décrire dans les rapports de police les personnes racisées de nationalité française. En gros, ceux que l'on ne peut pas taxer du mot « étranger ». La police nationale devrait sans aucun doute revoir le vocabulaire utilisé et ne pas se justifier en appelant ça une simple habitude. Les habitudes doivent parfois être changées et cela est même nécessaire de mon point de vue.
Bien, merci Aurélie. On va continuer cette rubrique actualité au travers de reportages Et on va commencer par revenir sur la marche silencieuse pour les Bridgestone. C'était il y a une toute petite semaine, c'était dimanche 4 octobre, dimanche dernier. Reportage donc à Béthune. Ce dimanche matin, 4 octobre, l'intersyndicale de l'usine Bridgestone de Béthune organise une marche de soutien aux salariés de l'entreprise. L'usine Bridgestone de Béthune est en effet menacée de fermeture avec à la clé une charrette de 863 licenciements. L'intersyndicale a précisé que cette marche était une marche de soutien sans étiquette syndicale ou politique. Par ailleurs, le maire de Béthune, président de l'agglomération, a indiqué que le parcours de la marche avait été préparé en concertation avec les organisations syndicales et qu'il ne s'agissait pas d'un mouvement qui appelle à la grève. Il a également évoqué le fait que, selon lui, le silence de la marche exprime les valeurs de travail et la solidarité qui caractérisent notre région. Microrebelles participait à cette marche. Nous avons tendu notre micro à plusieurs participantes et participants avec la préoccupation suivante: est-ce que cette marche, silencieuse, sans banderole, sans affichage politique ou syndical, est-ce que cette marche, donc, est une première étape et quelle pourrait être la suite? Comme on pourra le constater, les réponses oscillent entre résignation, attente et combativité. Tous les échanges qui suivent ont été réalisés durant la marche du dimanche 4 octobre, sous le vent et la pluie.
Claude Delalo, Calonne Ricouart. Enfin, je suis retraité, mais il faut soutenir quand même les usines que le gouvernement ferme, hein, bien sûr, hein, pour pas. Appuyé par le gouvernement, hein, mais sans quoi, bon. Et je peux pas vous en dire plus, je suis en plein soutien avec eux.
Et cette marche silencieuse, là, pas de banderole, pas d'autocollant, pas de mot d'ordre. Qu'est-ce que c'est? C'est une marche funèbre? C'est un enterrement?
Enterrement, non. Enfin, si, c'est un enterrement de l'usine. Hein. C'est un enterrement de leur usine. Mais après, je ne sais pas. Vous savez, maintenant, tout le monde s'en fout un peu, on dirait. Alors, du coup, bon, ben, je sais pas. J'ai habité ici.
Par exemple, les élus soutiennent la marche, ouais. Mais est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose?
Je pense pas. Avec un gouvernement comme on a là, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir appuyer de plus. Hein. Ils sont là par obligation, certains. Certains sont là par obligation. Parce que les élections, aussi bien que régionales que présidentielles, vont bientôt arriver.
Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Autrement dit, est-ce que cette marche elle est à la hauteur? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres actions envisagées? Qui est-ce qui peut faire quelque chose?
Il n'y a que les syndicats, mais il faut voir un peu comment ils sont entre eux. Quoi. L'intersyndicale peut faire bouger les choses, mais il y a eu à Forestia Auchel, il y a une paire d'années en arrière, que le syndicat a fait bouger, a réussi à que l'usine ne ferme pas. Quoi.
Voilà, je suis venu de Lille pour soutenir ces gens, si tant est qu'ils veulent vraiment ne pas être licenciés. Quoi.
Alors cette marche, cette marche silencieuse, là, il n'y a pas de banderole, il n'y a pas de slogan, d'autocollant. Ah ouais. C'est quoi? C'est une marche funèbre? C'est un enterrement?
Ouais, je sais pas, on peut se poser la question, effectivement. Je ne savais pas qu'elle était silencieuse. Je ne savais pas que c'était le truc, mais donc effectivement, on dirait que c'est un enterrement. C'est un peu ce que je crains, c'est qu'ils aient accepté déjà le principe des licenciements, quoi. Et moi, je suis venu ici pour dire que les licenciements sont scandaleux, quoi. C'est Bridgestone, actionnaire, on sait les 500 milliards qui ont été donnés par l'État pour éviter ce genre de cas. Et voilà, et ça arrive, quoi. Donc, ouais, c'est scandaleux. Il faudrait crier sa colère et pas défiler tête baissée, quoi.
Qu'est-ce que on peut faire?
Des tas d'autres choses. On pourrait occuper l'usine pour marquer son opposition à ça, par exemple. Il y a des tas de choses à faire, des tas de choses à faire un peu plus efficaces qu'une marche silencieuse qui vaut acceptation un peu de ces mesures-là, quoi. Voilà.
Et alors, dans cette marche, elle a été, y compris, montée avec les élus, hein, les élus du territoire. Est-ce que... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces élus? Ils peuvent faire quelque chose?
Oui, soutenir et pas... Parce que là, une marche silencieuse à 9h30 du matin, on se demande quel est le but d'une marche pareille, quoi. Voilà. On sait que il va y avoir moins de monde tout de même un dimanche matin à 9h30. On ne sait pas ce que les élus veulent pour une marche silencieuse. Ouais, vraiment, ça fait marche d'enterrement, quoi. Et on accepte le truc, quoi, voilà.
Bonjour, je m'appelle Emmanuel Delaporte.
Alors, pourquoi est-ce que tu es ici?
Pour soutenir mon mari et tous ses collègues.
Il est salarié à Bridgestone?
Oui.
Alors comment ça s'est passé d'un point de vue personnel pour vous, hein, en famille, cette annonce?
Ça a été un choc. Mon fils de 6 ans a également été choqué en nous disant « Papa, comment ça va se passer avec l'usine qui va fermer ?» Il est très perturbé par cette annonce. À 6 ans, c'est un choc pour nous aussi.
Ça fait combien de temps qu'il était dans l'usine?
Alors, ça fait 10 ans, 3 ans d'embauche. Donc, les années précédentes, c'était en intérim.
Et comment s'est vécu en général ce type de situation dans la sphère privée, familiale? Quelles sont les perspectives? Quelles sont les questions que toi, tu te poses avec ton mari et puis en famille en général, maintenant pour l'avenir?
On a peur pour notre avenir. Parce qu'on voit que nous ne sommes pas les seuls concernés.
J'avais une question peut-être sur cette marche-là. C'est une marche silencieuse, il n'y a aucune revendication. On a l'impression qu'il n'y a pas de combativité. Qu'est-ce que c'est? C'est une marche funèbre? C'est un enterrement?
Non, du tout. C'est pour... en fait, ils attendent que ça, que les salariés se défendent, se révoltent, cassent. Mais non, ils veulent montrer qu'ils sont encore là pour travailler. Et ils veulent montrer qu'ils veulent sauver leur emploi, montrer qu'ils veulent continuer à travailler dans cette entreprise.
Et selon toi, ça peut déboucher sur quoi?
Je sais pas du tout, je pense qu'ils veulent absolument fermer et je pense que c'est fini.
Toi, tu es pessimiste?
Ils nous font devenir pessimistes, donc je vois pas... Je vois pas.
Je me présente, je m'appelle Anne Monvoisin, je suis déléguée syndicale de la CGT, je travaille dans le commerce chez une grande enseigne et je suis là pour soutenir les salariés de Bridgestone. Car je pense que tant d'années derrière cette entreprise, ça doit être le choc total. Donc voilà, je suis là pour le soutien.
Peut-être une question, puisque tu te présentes d'une manière militante et puis par rapport à ton activité. Dans ton activité, ta grande enseigne, il y a ce type de menace aussi?
Exactement, nous on parle de restructuration en 2021, donc des conditions de travail qui vont se dégrader. Des salaires de misère, on nous propose rien en négociation, donc nous serons confrontés l'année prochaine certainement à cette situation, donc on comptera aussi sur le soutien de personnes, j'espère, qui sera dans les roues avec nous.
Alors cette marche pour les Bridgestone, marche silencieuse, ça suffit, c'est à la hauteur, c'est ça qu'il faut qu'on fasse?
Je pense que c'est un moyen de marquer le... Ça serait pas dans moi le... Je pense qu'il faut marquer plus les esprits et peut-être taper encore plus haut et faire des marches plus haut au niveau de la direction et montrer que tout le monde est là et solidaire en fait.
Tu penses à quoi?
Je sais pas. Peut-être, je sais pas, par rapport à ça, je n'ai aucune idée, mais voilà quoi. Mais je pense qu'il faut se battre pour son poste, car des familles vont se retrouver sans reconversion peut-être. Des personnes qui ont la cinquantaine et qui n'auront pas de travail derrière, qui vont devoir vivre avec, qui vont vivre ou plutôt survivre. C'est ça surtout.
Jean-Marc Tellier, maire de la commune d'Avion.
Cette marche à laquelle tu es, quels sont tes motifs?
Déjà, les motifs, c'est en plus des paroles, il nous paraissait important d'avoir des actes. C'est pour ça qu'on est venu avec des élus d'Avion, avec des camarades d'Avion, parce qu'on a voté déjà une motion au niveau du conseil municipal. On a mis une banderole dans la ville et je pense qu'on soutient. Mais la meilleure façon de soutenir, c'est aussi dans l'action. Donc c'est pour ça qu'on est présent ce matin.
Alors c'est une marche silencieuse, hein. Il n'y a pas de banderole, quasiment pas de drapeau, pas d'autocollant, pas de marque militante. C'est quoi? C'est une marche funèbre? C'est un enterrement?
C'est déjà une situation quand même pour le bassin d'emploi catastrophique. Mais je crois que c'est d'abord aussi montrer qu'on n'est pas d'accord. Maintenant, qu'il n'y ait pas de banderole, qu'il y ait une unité, je trouve ça important. Mais il ne faut pas oublier que ça reste quand même politique, quoi. Si on en est arrivé là, c'est bien parce que quelque part on est face à des patrons voyous, à des gens qui s'en foutent du quotidien de nos populations, des employés de Bridgestone. Donc je crois qu'il faut respecter le choix qui a été fait, mais pour moi c'était aussi un acte politique d'être là.
C'est clair, alors c'est vrai que faut, comme tu dis, il faut respecter le choix, hein. C'est les travailleuses et les travailleurs, leur soutien qui doivent déterminer leur modalité d'action. Qu'est-ce qui pourrait être suffisant quand même au niveau combat, au niveau combativité?
Déjà, il faut que notre gouvernement y réagisse. C'est pas possible de laisser faire ça, quoi. Quand on voit tout l'argent public qu'on a pu donner à cette entreprise, qu'on donne aux autres, je crois qu'il y a besoin d'une réaction et de faire bouger les choses.
Ben bonjour, moi c'est Geoffrey, donc je travaille à la Française de mécanique de Douvrin et j'ai 38 ans.
Qu'est-ce qui fait que tu es ici ce matin?
Moi je suis ici ce matin avec tous les travailleurs pour soutenir les travailleurs de Bridgestone contre la fermeture du site et pour montrer notre solidarité entre travailleurs, quoi, qu'on est tous concernés. On est tous des travailleurs, donc on est tous concernés.
Alors c'est une marche silencieuse, hein, il n'y a pas de slogan, pas de marque militante, quasiment pas de drapeau. C'est quoi cette marche? C'est une marche funèbre? C'est un enterrement?
Non, c'est justement une marche pour montrer que justement c'est pas fini et que justement c'est le début de la lutte et qu'il va falloir que les travailleurs collectivement ils s'organisent pour justement contrer toutes ces attaques du grand patronat et de la bourgeoisie.
Cette marche, elle a été notamment préparée avec les élus du territoire, hein, du Béthunois. Ils peuvent y faire quelque chose, les élus?
Moi, je pense que c'est surtout les travailleurs collectivement qui peuvent inverser la tendance et le rapport de force. Et les élus, ils soutiennent comme ils peuvent, mais c'est surtout le rapport de force, là où on produit les richesses, qui comptera pour la suite.
Et à qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Qu'est-ce que doivent faire les travailleuses et les travailleurs et...
Continuer à discuter, continuer à s'organiser ensemble. À faire le maximum de bruit, à se faire connaître, à se faire entendre, et à discuter autour d'eux et à mobiliser au maximum.
Parce que là, on a quand même l'impression, alors c'est peut-être un début, hein, mais on a quand même l'impression que la compatibilité n'est pas tellement là malgré tout.
La compatibilité, c'est pas inné, quoi. Je veux dire, elle se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Il faut que les gens discutent, il faut que les gens se mobilisent ensemble, il faut qu'ils se réunissent sur les temps de pause, il faut qu'ils se réunissent à l'extérieur. Mais la combativité ou la mobilisation, ça peut partir comme ça peut s'organiser en quelques temps, comme ça peut s'organiser. Ça peut prendre du temps comme ça peut aller très vite, quoi, mais ça dépend de la mobilisation et des discussions.
Alors je m'appelle Sophie.
Alors pourquoi est-ce que Sophie tu es là ce matin dans la marche ?
Pour soutenir mon mari et mon fils.
Qui sont tous les deux salariés à Bridgestone ?
Voilà, effectivement, oui.
Alors comment ça s'est passé justement à titre personnel, dans la sphère familiale, cette annonce ?
Ah bah c'est un choc, hein, forcément. Hein. C'est un choc et en espérant que bah, ça tourne bien, on verra.
Aujourd'hui tu es optimiste, pessimiste, dans l'attente, quel est ton sentiment ?
Dans l'attente. Ah, aujourd'hui on ne sait pas grand chose, on attend les négociations.
Alors c'est les négociations entre qui et qui, est-ce que tu peux le préciser, puis voir un peu ce que tu attends de qui?
Ben, c'est les négociations entre les syndicats et la direction, et donc l'État qui nous soutient également, la région, le département, et on va tout faire, on va se battre.
Tu penses donc qu'il y a une possibilité que l'usine ne ferme pas?
J'espère de tout cœur.
Quelles seraient les conséquences pour toi, pour ta famille? Si l'usine fermait?
Eh ben, le salaire, hein, effectivement, hein, c'est dur. Il faut rembourser la maison, il faut rembourser, il faut manger, il faut... Moi, je travaille, donc voilà. Mais bon, après, le fils, le mari...
Ça fait combien de temps qu'ils sont dans l'usine?
10 ans.
L'un et l'autre?
Oui.
Quel est leur travail? Est-ce que tu peux en parler? C'est quoi leur être travailleur à Bridgestone aujourd'hui?
Donc mon fils, il est chaudronnier soudeur, donc c'est un caseyman, et mon mari il travaille dans le département des tringles, il est chef d'équipe.
Cette marche silencieuse, est-ce que c'est un bon départ? Est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce que tu attends de la suite? Est-ce que c'est ce type d'action qu'il faut faire?
Aujourd'hui, tout doucement, mais je pense que par l'avenir, il faudra être plus ferme.
Tu penses à quoi?
Des actions plus fortes.
Tu as des idées? Tu aurais des propositions?
Non. J'attends.
Séquestrer le patron?
Non, ça sert à rien du tout. Non. Non. Ça sert à rien du tout, ça. Non.
On peut dire que c'est les travailleuses et les travailleurs qui vont décider eux-mêmes?
Oh non, on a des syndicats pour ça.
Oui, hein, et au niveau syndical également.
Bien sûr, oui, tout à fait, oui. Ouais.
Bah, je suis Bruno Kenia, je suis retraité de l'usine, quoi. J'ai fait 39 ans à l'usine, quoi.
Alors, qu'est-ce que ça... Ça a fait pour un retraité, cette annonce?
Un choc. Un choc, on n'aurait jamais cru si brutalement déjà.
On ne pouvait pas le savoir, il n'y avait aucune alerte.
Bah moi je ne suis plus à l'usine depuis 2 ans, donc je ne sais pas ce qui se passait dans l'usine, je ne sais pas comment que ça se passait. Donc moi c'est quand je l'ai appris à la radio, quoi. Donc c'est vrai que ça fait un choc, quoi. Moi j'ai quand même fait ma carrière là, donc...
Et alors quelles sont les réactions des salariés que tu connais encore, si tu en connais encore, je ne sais pas.
Ah si, j'ai fait de la course à pied, donc j'en connais encore pas mal, donc ils sont abasourdis. Hein.
Et être abasourdi avec des envies de faire quoi? Comment réagir? Quelle riposte?
C'est ça le problème, ils ne savent pas justement. Ils ne savent pas ce qui va se passer là. Ils sont un peu dans l'inconnu.
Cette marche aujourd'hui, une marche silencieuse, c'est important, c'est suffisant?
Ah bah ouais, même si j'ai rencontré pas mal de retraités, donc c'est vrai que les retraités soutiennent ceux qui sont encore à l'usine, quoi, parce qu'il y a quand même pas mal de jeunes encore, donc leur avenir il est incertain. Non, carrément, ils ont acheté des maisons, des voitures, ils ont des familles, plus les sous-traitants, tout ce qu'il y a à côté de l'usine. C'est pas 800 personnes, c'est 3000 personnes à côté.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire?
Je sais pas justement. Il faut s'y tenir, on garde l'espoir quand même, mais s'il y a plus d'espoir, il faut le garder.
Mais là, on a l'impression que c'est un espoir. Il faut attendre qu'il y ait un messie, qu'il y ait un sauveur qui sauve l'usine.
On espère, mais... ça va être dur, je crois. J'ai du mal à les croire, moi, quand même.
Est-ce que c'est pas les travailleuses et travailleurs, leur soutien, la population, les retraités, qui doivent au contraire se mobiliser pour...
Aujourd'hui, il y a quand même du monde, malgré le temps qu'il fait, il y a quand même du monde. Donc, heureusement, ça leur fait du bien, quoi.
Je m'appelle Christophe Ernoux, j'habite sur les trains. Je suis venu sur les Godes de Bridgestone.
Tu n'es pas salarié dans l'usine,
Je connais quelques amis qui travaillent dans l'usine.
Alors justement, ces amis que tu connais, quelle a été la réaction?
Bah, ils ont pris ça très mal, quoi. Et puis, c'est un coup de couteau dans la plaie, quoi.
Alors aujourd'hui, il y a cette marche silencieuse. Oui. C'est un début, c'est important, c'est suffisant?
Pour moi, c'est pas suffisant. Parce que moi, je dis qu'il faut faire d'autres actions, quoi. Et puis, je ne comprends pas, c'est que, monsieur le président... C'est lui qui devrait plutôt réagir de ce côté-là, quoi. Parce que ce serait plutôt lui à venir qui se dérange à Bridgestone pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus, quoi. Je remercie beaucoup monsieur Xavier Bertrand d'être venu parce qu'au moins il est solidaire avec les gars de Bridgestone.
Alors tu parles d'action, tu penses à quel type d'action?
Moi je crois qu'il faudrait faire d'autres manifestations, quoi. C'est tout, quoi, ce que je peux dire.
Je reviens sur Xavier Bertrand que tu évoques. Il est solidaire, mais est-ce qu'il peut faire quelque chose?
Je pense que oui.
Il pourrait faire quoi?
Bah, je sais pas, mais moi je pense qu'il est solidaire avec les ouvriers de Bridgestone parce que quand ils ont lancé la suppression d'emplois, c'est la première personne qui est venue à Bridgestone. Et je crois qu'il a déjà fait beaucoup de choses à Bridgestone, quoi.
Est-ce que ce ne serait pas tout aussi important que les travailleuses et travailleurs se mobilisent dans l'action, dans des luttes
Oh si, il faudrait faire, mais il ne faut pas que ça aille trop loin aussi, quoi.
Je m'appelle Lorraine, moi je suis donc cheminote à Lille et on est venu là pour soutenir justement les salariés de Bridgestone qui sont concernés par leur plan social.
Donc tu n'en connais pas, tu es venu uniquement par entre guillemets sympathie et puis réflexe de camaraderie.
Voilà, exactement. Là on n'est pas sous une étiquette syndicale, on est venu en tant que salarié qui soutiennent d'autres salariés d'une entreprise, tout à fait.
Alors cette marche silencieuse, c'est important, c'est suffisant?
Je pense qu'à l'état actuel des choses, oui. Après, je pense qu'effectivement, il faudra peut-être aller plus loin dans les actions, peut-être réfléchir justement avec les salariés de Bridgestone sur ce qu'il faut faire ou non.
Quel type d'action auquel toi, tu penserais, hein,
Là, tout de suite, j'en ai pas, effectivement. Je suis juste dans la marche. J'ai pas encore d'idées constructives là, à ce niveau. Ouais.
Et il pourrait y avoir une solidarité entre... travailleurs de Bridgestone, de la SNCF, d'autres boîtes d'ailleurs.
Bah, on est là justement pour montrer qu'on les soutient, donc on espère effectivement que justement toutes ces contestations qui sont au sein des entreprises puissent aboutir justement à une réunification de tous les salariés qui sont concernés par les plans sociaux, les problèmes de santé, de conditions de travail au niveau des entreprises, puisque nous à la SNCF, c'est ce qu'on vit actuellement, oui.
Il faut dire que d'une manière générale, ça cogne, hein. Tu parles de la santé, tu parles de la SNCF, les services publics, les Alinéa, Camailleux.
Oui, bien sûr, de toute façon, on est en plein dedans, hein. Je veux dire, avec les lois qui sont passées, les lois El Khomri de 2016, où le patron d'Alinéa a pu dire « moi, je veux plus mon entreprise, je vire les salariés et je la rachète derrière », c'est quand même honteux, quoi. Je ne comprends pas comment on peut soutenir ça, c'est impossible, quoi.
Et alors, est-ce que notre riposte à nous, travailleuses, travailleurs, est-ce qu'elle est à la hauteur?
Non, je pense qu'on pourra aller plus loin. Après, là, à l'instant T, comme j'ai dit, j'ai pas forcément plus d'idées, puisqu'on n'est pas encore assez réunis pour en discuter, oui.
Ouais, Christophe Denisot, alors je suis membre de deux bureaux nationaux sur Solidaire, donc Sud Route et l'Union Solidaire Transport.
Pourquoi est-ce que tu es là ce matin ?
Bah, déjà parce que je suis du coin, donc, et puis à la limite, bah, une usine qui ferme, c'est toujours triste dans le contexte actuel avec son chapelet de licenciement. Donc ça va être très dur pour la région. Et puis parce que Bridgestone fait travailler des transporteurs, et puis ça va être un tsunami dans la profession aussi, parce que les gens, s'ils n'ont plus de rien à transporter, ça va être des conducteurs ou comment ça s'appelle, au chômage, et ainsi de suite. Et puis sans parler au niveau de la ville, peut-être des fermetures de magasins et de services publics et tout ce qui va aller avec.
Alors au niveau des camarades que tu connais, des camarades syndiqués sud que tu connais, quelle a été la réaction? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des échos? Peut-être pas d'ailleurs.
Bah, des échos, on les a eus à travers les annonces faites par Solidaire. Bah, de toute façon, ça a été une annonce qui a surpris tout le monde et qui a complètement démoralisé tout le monde, parce que Bridgestone reste quand même une très très grosse entreprise sur Béthune.
Alors là, ce matin, on est dans une marche silencieuse. Hein. J'ai vu que toi, tu as une chasuble sud. Mais sinon, il n'y a pas de pancarte, pas de slogan militant. Alors cette marche silencieuse, c'est quoi? C'est une marche funèbre? C'est un enterrement?
Oui, je pense que c'est un enterrement, oui. Ouais, c'est un enterrement. C'est quelque chose qui est en train de mourir. Mais au-delà de Bridgestone, il faut faire attention. Si ce n'est pas la région qui va commencer à mourir.
Que faire? Les travailleuses et les travailleurs, qu'est-ce qui peut faire, la population, les soutiens, qu'est-ce qu'il faut faire?
Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il va falloir revoir et repenser le syndicalisme et repenser le monde politique, parce que le monde politique est en train d'achever le monde ouvrier. Là. C'est leurs décisions qui font que le monde ouvrier est en train de crever à petit feu, mais il est en train de crever.
Mais les travailleuses, les travailleurs, ils peuvent réagir, peut-être déjà en désignant l'adversaire, parce que l'adversaire, quand même, c'est le patronat de Bridgestone.
Ah, c'est le patronat et c'est le fric. C'est les deux. Ça va, l'un va avec l'autre. De toute façon, patronat et fric, ça va bien ensemble. C'est deux mots qui sont complémentaires. J'espère que les cloches sont pour cette manifestation, par contre.
Les grèves, les occupations d'usines, les actions conjointes avec d'autres boîtes, on n'y croit plus?
On a du mal à rassembler interprofessionnellement. C'est ça qui est le pire. C'est que les gens ont l'air d'être... ont l'air de subir et de ne plus réagir. Et c'est ça qui va falloir inverser. On a du mal dans nos entreprises à syndiquer les gens, à les rassembler, à leur faire croire à nos projets. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est très compliqué.
Web radio indépendante de Bassamini, Micro Rebelle, média local alternatif, solidaire quoi.
Musique libre sur Micro Rebelle, c'était le groupe Quantum Jazz. Nous poursuivons nos reportages avec une nouvelle marche après la marche des Bridgestone. C'est maintenant la marche des sans-papiers, les sans-papiers qui vont relier Paris depuis les quatre coins de la France. Depuis le 19 septembre et depuis les quatre coins de la France, les sans-papiers et leurs soutiens marchent pour exiger la régularisation de toutes et tous, pour la fermeture des centres de rétention administrative, les CRA, et pour un logement digne. Toutes leurs marches vont converger jusqu'aux portes de l'Élysée le 17 octobre. La marche des solidarités, grande marche nationale des sans-papiers à travers toute la France, s'était lancée le 19 septembre de Marseille et Montpellier, puis sera rejointe par les villes de Rennes, Lille et Strasbourg le 3 octobre pour converger sur l'Élysée le 17 octobre. Partie de Lille le samedi 3 octobre, la marche nordiste a fait étape à Carvin, puis à Douai. Le troisième jour, après un passage à Hénin-Beaumont, il et elle arrivent à Grenay. La municipalité communiste les accueille chaleureusement. Micro-rebelles y étaient et donnent la parole à 200 papiers, exténués après une marche de 30 km dans la journée, exténués mais fiers de relater leur volonté d'intégration par le travail, fiers d'évoquer leur engagement durant le Covid et fiers de marcher pour continuer à dire « ça suffit » à la police, à l'administration qui leur rend la vie impossible, à une politique qui continue de refouler, réprimer, reconduire celles et ceux qui pourtant prennent en charge les boulots les plus pénibles.
Nous battrons les lois racistes. Unité, unité. Bon, je me présente, je m'appelle Garbé Rabat, je suis un membre du bureau collectif des sans-papiers, CSP 59, et il est à l'arrêt Bernance à FIV, à Lille.
Alors cette marche des sans-papiers, quels sont les enjeux, quels sont les objectifs?
Oui, d'accord. Le premier objectif, c'est une marche nationale. Nous, on va participer à cette marche pour le premier point, pour la régularisation de tous les sans-papiers. Et le deuxième point est pour le chômeur, pour avoir leur emploi et tout.
Aujourd'hui, il y a eu le coronavirus, il y a des centaines de licenciements.
Ouais.
Les travailleurs sans papier,
ouais.
C'est encore plus difficile.
C'est le travail le dur parce qu'on passe dans un moment, surtout la crise sanitaire et plus le Covid. Nous, pendant le Covid qui a été passé, pendant 3 mois, je remercie beaucoup les sans-papiers. Ce n'est pas uniquement moi, avec ma femme. On a aidé des gens qui ne peuvent pas faire des courses, qui n'ont rien à la maison. On a fait un groupe, on était allé chercher dans leur maison, on lui fait des courses et tout. Et après, on était invités avec Martine Aubry à Lille pour construire des masques. Moi, j'ai une machine. Ma femme, elle est couturière. On a construit beaucoup de masques pour aider les gens pour cette période de Covid. On va vivre avec eux. C'est ça le combat.
Tu veux dire que pendant le confinement, pendant la période importante de crise du Covid,
ouais.
Les sans-papiers ont été très actifs, ouais, en solidarité.
Oui, on est très actifs, solidarité avec tout le monde. On est reconnus, on a été félicités par des maires, par des préfets, ce qu'on a fait pendant le Covid. C'est ça la solidarité dans un truc comme ça, comme le Covid. Il faut montrer à l'État, nous, on est venu en France pour l'intégration, pour les papiers. On a des enfants à l'école, on a des filles à l'université avec des bons moyens. On cherche le travail.
Cette ville, oh, oh, oh. La ville de Lille, elle existe. Il comité, ils sont pas prêts. Qui va racher le préfet?
Oui, c'est Monsieur Laïfa, 45 ans, j'habite à Lille.
Alors toi, qu'est-ce qui t'a motivé pour démarrer cette marche?
Ce qui m'a motivé, c'est pendant les années, j'avais des trucs, voilà, j'ai un potentiel pour travailler et tout. J'ai travaillé chez des privés, j'étais vendeur en boulangerie, je suis diplômé aussi. Je suis un BTS en informatique, analyste programmeur. Voilà, j'ai travaillé et j'ai vu que les patrons profitent un petit peu de notre situation. Et voilà, on travaille plus que les autres et on n'est pas bien payé. Des fois, il n'y a pas de salaire des mois, mais on est obligé, comme on veut s'installer, on veut s'intégrer, on aimerait bien évoluer. Personnellement, je dis que j'ai un peu évolué, j'ai une maison et tout, mais après j'ai travaillé dans la période du Covid. J'étais en première ligne, j'étais vendeur boulangerie et je me levais à 5 heures et tout. Et après le Covid, période mois d'avril, il nous a dit stop, voilà. Parce qu'il n'avait pas de personnel au début, il avait besoin de nous. Et une fois il a récupéré, c'est qu'ils ont eu peur de travailler, voilà, il nous a écartés.
Il y a une chose que tu as dite qui me semble, enfin que j'ai relevé, c'est les patrons vous font travailler beaucoup, exactement, longtemps, exactement, vous payent presque pas. Et ça, c'est une forme de pression aussi sur les salaires et sur les autres travailleurs. C'est aussi une façon de diviser les travailleurs, exactement, français et travailleurs étrangers.
On se sent pas comme les autres, quoi. Personnellement, je faisais mes 8 heures et ils me forçaient à faire le ménage aussi. Et le ménage, comme c'est une grande boulangerie, fin de travail, je faisais mon boulot normal, la baguette et tout, je préparais les sandwichs, je travaille sans arrêt, quoi. Et après 2 heures de ménage, et des fois je tape 8 km à pied jusqu'à chez moi parce que le bus s'arrête vers 9 heures. Et je dis rien, quoi. Je dis rien parce que j'ai pas vraiment le choix.
Donc finalement, j'ai envie de dire, les travailleurs sans papier, c'est le prolétariat le plus exploité finalement.
Exactement. On est les plus exploités.
Alors est-ce que justement il y a des rencontres possibles entre les travailleurs sans papier et les travailleurs avec papier?
Oui, moi personnellement, je me suis dirigé vers la CGT en 2018, et là ils m'ont reçu avec cœur ouvert et ils savent déjà, ils ont de l'expérience et tout, ils savent la situation des sans-papiers. Et voilà, j'ai montré quelques preuves, mon planning et tout, que je travaillais, voilà. Et là ils disent qu'ils vont m'aider. Voilà, j'espère que je prouverai mes 2 ans et demi de travail.
Est-ce que tu peux faire part justement des difficultés pour avoir les papiers? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? C'est un problème politique, c'est un problème...
C'est un problème politique, oui. Et surtout dans cette période qu'on souffre vraiment, Covid, ça fait un moment qu'on travaille plus, il n'y a pas de ressources. Je sais que c'est une pandémie qui a touché tout le monde, la crise et tout. Et là, on a beaucoup souffert parce qu'on n'a pas de revenus pour manger, pour le loyer, pour l'électricité, pour le téléphone, et voilà. Et le gouvernement n'a pas réagi. On a fait acte 1, c'était le 30 juin. Et le 30 mai, ils n'ont pas réagi. Et on a fait le deuxième acte, on a fait des nuits blanches. Le acte 1, c'était la grande marche sur Paris et Lille et quelques environs. On a fait après des nuits blanches. Et là, aucune réaction du gouvernement. Et ça nous touche vraiment. On ne se sent pas des humains, quoi.
Alors la marche vient à peine de commencer, hein. Elle a démarré samedi 3 octobre, on est lundi 5 octobre à Grenay. Bon, même si ça fait peu de temps, est-ce qu'il y a déjà eu des rencontres intéressantes avec la population ?
Oui, bien sûr, il y a un accueil chaleureux, comme à Carvin, on était bien accueillis hier aussi. On avait peur aujourd'hui en passant par Hénin-Beaumont. Et finalement, je ne sais pas, c'est peut-être par rapport à le climat, il y avait la pluie un petit peu, on n'a pas eu d'incident et tout. Tout marchait bien, voilà. Voilà, et tout ça, c'est grâce au collectif, voilà, comme la CGT, d'autres, les droits de l'homme et tout, qui nous aident et ça nous touche, ça nous donne de la force pour continuer le combat.
Oui, je suis toujours avec Aurélie pour ce micro-rebelle hebdo qui se termine. Nous vous disons à toutes et tous à la semaine prochaine. Bye bye.
Bye bye.